Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette dernière semaine de Grand Bien vous fasse. Et ce matin, je vous propose quelques conseils pour passer un été en bonne forme, de bonne humeur et en bon état, que vous ayez la chance de partir en vacances ou pas. Comment prendre soin de son corps et de son esprit, renouer avec lui? Comment rester en bonne santé physique? Pourquoi, par exemple, les insolations peuvent être mortelles? Pourquoi faut-il impérativement vacciner les enfants contre le tétanos en cas de plaie? Pourquoi louer son logement sur un site comme Airbnb ou Homely Days peut causer quelques désagréments cutanés? Quels sont les aliments et boissons à éviter? Pourquoi est-il nécessaire de faire le plein de légumes de saison? Bref, nous attendons toutes vos questions pour passer un bel été par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Clarisse et Ulysse attendent vos coups de fil. Et puis dans un instant, vous retrouverez la petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?
Une musique fabriquée. Ouh, ça fait mal, je souffre, ça me brûle.
Tu veux qu'on te porte tous les deux jusqu'à la maison?
Oh, mais on est à 2 kilomètres. Oh, oh, saleté de méduse, ça fait mal.
Il faut que tu te pisses dessus.
Mais c'est dégoûtant.
Mais j'y suis pour rien, j'ai vu ça dans un documentaire.
Si, si, il a raison, c'est vrai. Je crois qu'il y a de l'ammoniaque dans la... qui soulage la douleur.
Non, pas question. D'ailleurs, j'ai plus mal.
Un extrait de la série Friends avec l'un des désagréments de l'été quand on a la chance d'aller à la plage. Avec nous ce matin pour nous délivrer quelques conseils pour vivre un bel été de bonne humeur, en pleine forme et en bon état, trois invités. Bonjour, professeur Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie à la faculté de médecine Paris Diderot et vous publiez Les quatre saisons de la bonne humeur chez Lattès. Bonjour Maïtena Birabin.
Bonjour.
Quand vous ne vivez pas votre vie dans un écran de télé, vous passez votre vie sur les marchés et en cuisine et vous publiez chez Marabout, un beau livre de recettes du quotidien, légumes, ils vont vous surprendre et vous nous délivrerez quelques recettes estivales à base de légumes qui allient plaisir et santé. Bonjour docteur Baptiste Beaulieu.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste dans la bonne ville de Toulouse. Parmi vos ouvrages parus, La balade de l'enfant gris chez Mazarine et j'aimerais citer votre blog très suivi. Alors voilà, professeur Lejoyeux. L'été, c'est une période un peu paradoxale. Nous sommes nombreux à attendre ce temps de vacances, de repos, de remise en forme. Mais c'est aussi le temps où l'on se retrouve en tête à tête avec soi.
Oui, c'est probablement une période qu'il ne faut pas adopter sur le mode du perfectionnisme. Vous savez, je veux un été parfait, de parfaite détente, de parfaite énergie. Ça devient une sorte de compétition. L'idée, c'est de faire des toutes petites expériences, agréables, mais surtout sans se mettre une pression. On est passé à une sorte d'hypocondrie de l'été. Est-ce que tu en as bien profité ton été? Est-ce que tu en as profité au maximum? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, il y a des petites choses quand même qu'on va redécouvrir et on va en parler. L'activité physique, la lumière, des choses qui d'habitude nous sont moins accessibles, mais surtout pas de pression.
Alors c'est aussi un moment où l'on peut être donc confronté à la solitude, mais aussi un moment où l'on se retrouve en permanence avec ses proches, et ça peut évidemment créer des tensions et affecter la bonne humeur.
Bien sûr, parce que on est tous.
Donc, vous avez une vision de l'été, c'est quelque chose. Hein.
Mais regardez,
c'est un truc. Hein.
On est tous là un peu atteints de la même maladie parce qu'on fait des livres. C'est une sorte d'addiction au travail quand on a un petit peu de temps de libre.
Ah non, je vous assure, j'ai rien faire du tout cet été. Hein. Avec un art, mais c'est un art de ne rien faire. Vous avez raison. Mais il faut s'obliger. Mais quand on y arrive, c'est délicieux.
C'est un art, mais c'est contre notre nature en tout cas. Et on va lutter contre cette nature et on va plus pouvoir utiliser cette espèce d'anesthésique naturelle qu'on a, qui est souvent le travail.
Docteur Baptiste Beaulieu, on évoquera avec vous les choses à ne surtout pas faire l'été pour revenir en bon état et en vie à la rentrée. On vous délivrera tout au long de l'émission quelques précieux conseils. Par exemple, à 10h11, on va casser une idée reçue qu'on a entendue là dans l'extrait de la série Friends. En cas de piqûre de méduse, inutile d'uriner sur la partie urticante.
Oui, c'est une légende urbaine. C'est moins l'ammoniaque qu'il y a dans l'urine qui est importante que...
Non mais je pense à tous ceux qui l'ont fait et qui sont là. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Parce que vous l'avez fait, Maïté Nabirabin.
Non, moi je ne sais pas, mais je l'aurais fait si ça m'était arrivé. J'aurais dit, mais vite, il faut que quelqu'un me fasse pipi dessus, c'est sûr.
Docteur Beaulieu.
C'est surtout la chaleur de l'urine. En vérité, ce qu'il faut faire, c'est plonger le membre qui a été piqué dans un milieu liquide chaud, parce que la chaleur du liquide va permettre de désactiver le venin. C'est un venin qu'on dit être thermolabile, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas la chaleur, et donc on plonge le membre dans un milieu liquide chaud, Et normalement, on s'en sort.
Maïté Labirabin, alors vous publiez un beau livre avec la collaboration du chef basque Pierre Etchemaïté.
Oui,
je l'ai bien dit.
Oui.
Légumes, ils vont vous surprendre. Alors vous êtes une grosse légume de la télé, mais je ne connaissais pas ce goût immodéré pour les panais, tomates et autres courgettes. C'est Denise, la cantinière de l'école de votre village à Montgaillard, dans les Landes,
oui.
Qui est un peu votre modèle en matière de légumes.
Non, c'est pas tant les légumes, c'était le... En fait, Denise, je l'ai connue quand j'étais petite fille, que j'allais à l'école dans les toutes petites classes, et c'était déjà une vieille dame. Elle avait des cheveux blancs, elle traversait la rue, c'était un tout petit village, hein. Elle traversait la rue avec son plat, son grand plat en métal, dedans il y avait du hachis parmentier de canard, c'était juste exceptionnel, c'était fou, on voulait tous du rab. S'il te plaît Denise, on peut avoir du rab. Bon voilà. Et puis j'ai revu 20 ans après avoir quitté l'école, et je retombe sur la même femme, le même visage, les mêmes traits, le même teint rose, et je me dis, mais c'est quand même, elle a des gènes, mais exceptionnel, elle était déjà vieille quand moi j'étais. Elle a toujours la même tête.
C'est les légumes,
cette dame. Et puis je constate ça avec deux ou trois autres aînés du village, les deux autres vieux du village. Je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je m'installe ici, il faut que je revienne vivre dans mon village d'enfance. Et puis j'ai réfléchi, j'ai cherché à comprendre. Et en fait, le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils mangent ce qu'ils cultivent depuis toujours. Donc ils mangent de saison, forcément, et ils mangent proche locavore, on dirait maintenant, mais voilà.
Alors on évoquera avec vous quelques légumes vedettes de l'été. C'est votre légume vraiment vedette, star.
Là, mois de mai, honnêtement, le livre sortant au mois de mai, il n'y avait pas les tomates, je dois vous dire. Et après je me suis dit, moi j'achète pas un livre de cuisine au mois de mai s'il n'y a pas de tomates dedans, c'est pas possible. Alors je sais, c'est un fruit, mais ça peut être aussi un légume,
on fait quand même. On a fait une émission lundi dernier dessus.
Voilà, non mais c'est ça, non mais alors, bon, là moi en ce moment c'est les tomates, j'attends, parce que elles sont pas encore top, hein. Il faut encore attendre un peu là, mais ça va. Moi j'attends les tomates en ce moment, donc c'est les tomates.
Je m'adresse au psychiatre Michel Lejoyeux. Les tomates pour l'humeur, c'est plutôt bon?
Alors beaucoup de ces crudités sont bonnes. J'ai pas vu, pour avoir beaucoup regardé les études spécifiques sur humeur et légumes, j'ai pas vu spécifiquement les tomates, mais en tout cas tout ce qui est autour du naturel et du cru avait quand même des données tout à fait intéressantes au niveau de ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Quand on regarde les neurones fonctionner en direct, on voit qu'ils vont mieux quand, par exemple, la moitié de votre plat est fait de légumes. Donc, tout à fait d'accord.
Ce qui est la règle, hein. Il faut que ce soit à la moitié de votre plat.
Au moins la moitié. Ouais. Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Vous évoquerez tout à l'heure les vertus des bains de mer sur la santé.
Sur la santé physique et mentale.
À tout à l'heure, Aline Perraudin. Allez, il est temps de retrouver la petite philo de la vie quotidienne, Thibaut de Saint-Maurice, qui s'intéresse ce matin à la découpe de légumes.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors ce matin on s'intéresse à la découpe de légumes.
L'orange. L'orange, c'est pour réveiller les dimanches après-midi pluvieux.
C'est dans ces éclairs de simplicité que l'on reconnaît la grâce. Je vais vous livrer mes légumes deux fois par semaine. Ne les trahissez pas. Il faut jamais trahir. Ni les légumes, ni les gens.
Voilà, petite leçon, hein. Première petite leçon du matin, ne jamais trahir ni les légumes ni les gens. C'était un extrait de la première saison de la série Chef, diffusée donc sur France 2. Alors Ali, je sais comme moi que vous aimez cuisiner, et vous serez d'accord avec moi pour dire que l'un des premiers plaisirs de la cuisine, juste après le plaisir donc de faire le marché, dont on a déjà un peu parlé, et puis juste avant aussi celui de la dégustation, eh bien je vais vous dire, c'est le plaisir de la préparation. Et tout particulièrement, c'est le plaisir, je crois, d'éplucher et de couper les fruits et les légumes. Alors je vous rassure, hein, ce n'est pas la sensation de tenir le couteau au creux de ma main qui me réjouit. Non, le plaisir de la préparation des légumes, c'est d'abord une joie toute philosophique, le plaisir d'une petite métaphysique appliquée, le frisson d'une esthétique minuscule.
Alors Thibaut, pourquoi aimez-vous tant découper les légumes?
Eh bien d'abord parce que c'est une expérience sensible incroyable. On touche des pots, on ouvre et l'on voit l'intérieur de l'aubergine ou de la pêche que l'on découpe. On se surprend à en découvrir les différences de couleurs, on sent le jus couler sur le bout des doigts, les parfums se libèrent et on a déjà sur le bout de la langue, comme par la magie d'une anticipation, le goût de ce que l'on mangera ensuite. Cuisiner en général, mais préparer des fruits et des légumes en particulier, c'est une manière formidable d'être au monde, de mettre les mains dedans et de sentir de tout son corps, comme dirait le philosophe Merleau-Ponty, que l'on est fait de la même chair que le monde, une chair sensible et juteuse qui atteste de notre réalité.
Certes, mais découper, c'est aussi trancher et détruire.
C'est vrai, mais vous aurez remarqué, Ali, qu'on ne découpe pas les légumes et les fruits par hasard. Il y a des manières de les tailler, alors on peut faire des petits cubes, hein, c'est une brunoise, on peut faire des filaments, c'est une julienne, on peut faire des cubes un peu plus larges et ce sera une taille en mirepoix, ça c'est pour les tailles traditionnelles, et puis aussi on peut faire plus simple, hein, on peut faire en rondelles, en bâtonnets, mais on peut aussi faire plus compliqué, hein. Il y a des choses formidables, j'ai vu des roses de pommes de terre ou des pommes en forme de fleurs, bref, découper un fruit ou un légume, c'est toujours lui donner une forme, et le plus souvent géométrique. À travers ce petit geste de la découpe, on donne une forme à ce que l'on mange, on passe donc de la nature à la culture. Et comme aurait pu le dire Kant, l'épluchage d'abord et la découpe ensuite des fruits et des légumes, c'est le premier travail à travers lequel on transforme une matière première naturelle en produit culturel par le simple fait de lui donner une forme intentionnelle, c'est-à-dire une forme qui n'est pas naturelle parce qu'elle est le résultat d'une intention, c'est-à-dire d'une opération de l'esprit.
Alors la cuisine n'est donc pas qu'un ensemble de techniques et de recettes.
Ben non, évidemment, c'est aussi une opération rigoureusement philosophique, donc par laquelle on fait l'épreuve sensible du monde et par laquelle on fait aussi advenir un monde nouveau, à la fois entièrement humain et à la fois entièrement dépendant de matières premières naturelles. Les plus humbles des cuisiniers du quotidien, dont je fais partie, dès lors qu'ils cuisinent, qu'il lave, qu'il épluche, qu'il découpe, qu'il mixe, qu'il émulsionne, qu'il cuit ou qu'il dispose simplement sur un plat quelques quartiers de ces bonnes tomates qu'on attend, eh bien, il participe de la transformation de l'humanité. Nous devenons ce que nous mangeons parce que nous mangeons ce que nous avons cuisiné, ce que nous avons préparé, ce que nous avons donc découpé et épluché et non pas seulement cueilli et juste croqué. Alors, donner une forme à ce que nous mangeons en le préparant nous-mêmes, est-ce que ça n'est pas le meilleur moyen d'être soi-même en forme et de le rester?
Maïté Nabi Rabin, ça vous inspire quoi?
J'adhère à 3000%. J'étais en train de me dire, décidément, ce qu'on appelle, je déteste ce mot, le bon sens est toujours empreint de beaucoup de réflexion. En vous écoutant, je repensais au maternel, le lieu de la famille, cette émission que j'ai faite il y a bien longtemps, où on parlait de philosophie, d'économie, de politique, et je pense que dans une maison, on pense énormément. Et c'est exactement ce que j'ai... C'est vraiment ce que je voulais raconter. On est ce qu'on se met dans le bec, ça va devenir ce qu'on est, forcément. C'est évident, si on mange mal, on sera mal. Si on mange bien, on sera bien. C'est vieux comme le monde, c'est pas moi qui vous l'apprends. Il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi, il me semble bien quand même.
Professeur Michel Lejoyeux.
Oui, il y a quelque chose autour d'une fonction psychologique à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, qui est extrêmement utile, qui s'appelle l'anticipation. Au moment où vous découpez votre légume, vous avez vu, c'est pas forcément un moment très, très facile, mais vous êtes en train de vous projeter, d'avoir une anticipation positive. Et beaucoup de notre bien-être, de notre capacité à ressentir des émotions positives, vient pas tellement de ce qu'on ressent dans l'ici et maintenant, mais dans ce qu'on est capable d'imaginer et de projeter. On fait un très joli petit exercice. Moi, je le propose quelquefois, même en consultation, anticiper de manière positive ce qui va se passer. C'est exactement ça, votre découpe. J'imagine, si vous êtes capable de découper une pomme de terre en rose trémière, vous êtes en anticipation parfaite.
Ça change de goût, hein, selon la manière dont c'est coupé un légume. Et c'est marrant, vous parlez d'anticipation. Moi, pour moi, le moment où on découpe, on a épluché, on est en train d'éplucher, on prépare, etc. C'est comme le point de croix, c'est l'abstraction. On n'est plus là. On est là dans... On réfléchit plus.
C'est ce que les psychiatres appellent l'état de flow.
On est suspendu.
Oui, ce qu'on appelle aussi la fixation sur l'instant présent, le mindfulness, la méditation, la capacité à faire le vide dans son esprit. C'est extrêmement difficile de le faire sans quelque chose d'extérieur. Le légume est parfait.
Donc découpons des légumes cet été pour être de plutôt bonne humeur.
Et pensons à ce qu'on va déguster après. Faisons ce petit exercice d'anticipation.
La petite philo de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice, c'est tous les lundis dans Grand Bien vous fasse. Et c'était la dernière.
Pour cette saison.
Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marlio et c'est réalisé par Claire Destacan.
Slow down.
Futuro interprété Pelo Hans.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h24, comment passer un été en bonne forme, de bonne humeur et en bon état avec le professeur Michel Lejoyeux, le médecin généraliste et romancier Baptiste Beaulieu avec l'animatrice Maïté Nabirabin. Michel Lejoyeux, parmi les premiers conseils pour passer un bon été, ne surtout pas emporter son mauvais esprit en vacances. Qu'est-ce qui différencie un vacancier de bonne humeur et le vacancier de mauvaise humeur ?
Bah, probablement que le vacancier de mauvaise humeur va tout voir effectivement sur un mode négatif et va voir toutes ces activités nouvelles que nous propose l'été comme des choses complètement incongrues. Alors, c'est toute la différence entre l'humour qui va être complètement utile en vacances, qui va permettre vraiment d'avoir des vacances agréables, et puis une sorte de cynisme qui va faire qu'on va finalement ressentir et transmettre des émotions négatives. Mais là encore, n'oublions pas que l'activité physique, le corps, va vraiment agir sur l'esprit. Donc si on est capable de danser, de chanter, d'aller hurler dans un karaoké, d'avoir ne serait-ce que même cette petite activité physique qu'on n'a pas forcément l'hiver ou au moment où on travaille, on va là encore utiliser des antidépresseurs naturels, fabriquer ses propres molécules de la bonne humeur.
Je vous imagine en karaoké, professeur Michel Lejoyeux.
Alors, vous voulez essayer tout de suite le karaoké?
Tout à l'heure. Comment ne pas déprimer si on n'a pas la chance de partir en vacances? La perspective de rester 2 mois dans son environnement habituel, ça peut mettre le moral dans les chaussettes? Évidemment.
Je crois qu'il y a tout. Le sujet, c'est le changement. Le sujet, c'est pas forcément le changement de lieu, mais c'est le changement d'activité, le changement de rythme.
Et casser aussi ses routines quotidiennes.
Absolument, de casser ses routines quotidiennes, et là encore sans contrainte. Vous savez, moi j'ai toujours un peu peur de cette idée, demain je suis en vacances, je suis un homme nouveau, vous voyez, rien de ce qui m'intéressait avant ne va m'intéresser. Cette sorte d'obsession d'une pureté en vacances qui moi me gêne beaucoup. Donc on va garder ces petites inquiétudes, mais on va changer en rajoutant des choses. Je pense qu'un des principes des vacances, c'est de rajouter ce que justement on n'a pas toujours le temps de faire, la cuisine, l'activité physique, la musique, l'art, la relation au corps, tout ça va pouvoir se rajouter. Et finalement, moi je propose des vacances par concurrence. Pas essayer d'enlever ce qu'on fait d'habitude, mais de rajouter d'autres choses.
Mon Dieu !
Quoi ?
Vous avez un coup de soleil monstrueux !
Où ça ?
Là, en dos. Ah. Attendez, laissez-moi faire. J'ai une petite crème hydratante à base de placenta de vache.
La vache ? Ça, c'est chouette.
Tournez-vous.
Je suis très touché.
Laissez-moi faire. Alors, ça ne sent pas très bon, mais c'est très efficace.
Les vacances de Ducobu en 2012. Alors,
ça, je ferai pas, par exemple. Ouais.
Docteur Baptiste Beaulieu, j'aimerais qu'on évoque quelques pistes pour rester en bon état cet été, en bon état physique. D'abord, se protéger coûte que coûte de l'insolation qui peut être mortelle.
Ah oui, tout à fait. Il faut faire très, très, très attention. Déjà, commencer par prêter attention particulièrement aux personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les nourrissons et les personnes âgées.
On va y revenir, mais qu'est-ce qui se passe en cas d'insolation dans l'organisme ?
Alors, en cas d'insolation, c'est assez simple. Il y a une élévation de la température interne. Une rupture de ce qu'on appelle l'homéostasie.
C'est quoi l'homéostasie ?
L'homéostasie, c'est l'ensemble des facultés développées par le corps en permanence pour faire en sorte que les contraintes extérieures ne modifient pas l'état basal de l'organisme. Et donc, cette température intérieure va augmenter, et en augmentant, elle entraîne des dégâts cellulaires. Et donc, les cellules se rompent et libèrent ce qu'on appelle des substances pyrogènes. C'est-à-dire qu'il y a un effet vraiment totalement paradoxal. C'est-à-dire que non seulement la température interne augmente, cette température augmente, libère ces substances pyrogènes qui vont faire augmenter au niveau du système nerveux central la température interne. Et donc, c'est un cycle infernal, puisque du coup, la température interne augmente de nouveau et on n'en sort pas. Quoi. On se surchauffe, voilà.
Alors, pourquoi l'organisme des tout-petits s'adapte difficilement aux variations de température, et notamment en cas de chaleur, de forte chaleur?
Tout simplement parce qu'il est encore naïf, ce sont des organismes encore naïfs qui ont du mal à s'adapter, et particulièrement avec tout ce qu'on appelle les systèmes de sudation. Vous savez, la sudation est très importante pour entraîner un échange thermique, notamment par convection. C'est-à-dire que, par exemple, l'échange thermique se fait 25 fois plus quand on est dans de l'eau que quand on est à l'air. C'est pour ça que quelqu'un qui fait une insolation, il faut évidemment le mettre le plus tôt possible dans un milieu frais et si possible dans de l'eau froide pour que ces échanges thermiques, cette convection se fassent beaucoup plus rapidement.
Alors pourquoi faut-il éviter par exemple de donner du paracétamol ou de l'aspirine en cas de grosse insolation ?
Alors, Il y a eu beaucoup, pendant des années, ça a été débattu par les scientifiques. Et on en est un peu revenu de cette idée-là, tout simplement parce qu'en cas d'insolation, et particulièrement en cas de gros coups de chaleur, qui est l'étape supplémentaire, qui est plus grave encore que l'insolation, on a ce qu'on appelle les défaillances polyviscérales, c'est-à-dire d'un seul coup le rein, le foie se mettent à dysfonctionner. Si on rajoute à cet organisme, dont les organes nobles comme le rein, le foie dysfonctionnent, du paracétamol et de l'aspirine, c'est pas bon, Maïdena, effectivement, l'organisme, le système d'épuration de l'organisme fonctionne moins.
Alors hier, vers midi, dans un jardin parisien, j'ai vu beaucoup d'enfants sans chapeau ni lunettes, en plein soleil, et des enfants qui portaient des chapeaux sombres, des casquettes noires, à éviter absolument. Ça peut paraître un peu bébête comme conseil, mais...
Mais il faut couvrir les enfants, il faut couvrir les membres également, et puis évidemment les chapeaux, éviter les chapeaux noirs, parce que bon, tout le monde sait que la couleur noire absorbe particulièrement les rayons du soleil, plutôt préférer des chapeaux qui...
Bleu.
Bleu, c'est très bien.
Mais oui, bleu, c'est bien. Bleu, c'est désert, très bien. C'est bleu.
Et puis oui, puis la crème, évidemment, pour protéger des rayons, ouais.
Alors la semaine dernière encore, en pleine canicule, et ça sera sans doute le cas cet été, j'ai vu des tas d'adultes, parfois âgés, faire leur jogging en plein soleil. Alors quels sont les risques? Risque mortel, faut le rappeler.
Le coup de chaleur, c'est mortel. Chaque année, il y a des gens qui meurent. On en a parlé hier ensemble, mais moi, le coach qui me suit sur Toulouse et qui est décédé en deux jours d'un coup de chaleur comme ça.
Trentaine d'années, c'est ça ?
Il avait 30 ans, deux enfants, il est allé faire une course en plein midi comme ça. Pendant une heure, il a couru, puis après, il s'est pas senti bien. Sa femme l'a récupéré dans un état, et puis 24 heures après, en réanimation, il est parti, quoi.
Professeur Lejoyeux, le coup de soleil, l'insolation, ça peut provoquer des confusions mentales. Hein.
Oui, c'est quand même... Ne dramatisons pas, effectivement, quand on fait des grands efforts, mais ne développons pas quand même une sorte de phobie, de phobie du soleil. Je sens qu'on est en train de faire monter la pression.
Là, moi, j'ai envie d'aller au ski, là.
Passer des vacances tranquilles, mais faites gaffe, vous avez l'arrêt cardiaque d'un côté. Détendons-nous avec quelques idées de bon sens.
Est-ce qu'il existe, par exemple, un lien réel entre les bains de soleil et la bonne humeur?
Oui, enfin, il y a en tout cas besoin...
C'est lié à la vitamine D,
C'est lié entre autres à la vitamine D, oui, qu'on produit sous l'effet du soleil, mais on va en avoir largement. Ce qu'on vient de découvrir aussi, c'est que la lumière, elle est d'autant plus favorisante, elle favorise d'autant plus la bonne humeur qu'on l'a le matin. Désolé, mais l'énorme grasse matinée où vous vous réveillez à 3h de l'après-midi, complètement pâteux, et où vous ne reconnaissez...
C'est bon l'été de se lever à 3h de l'après-midi,
ouais, non? On le fait une fois, mais si on le fait tout l'été, complètement pâteux, on ne va pas reconnecter un petit peu son cerveau. Et la lumière du matin est une lumière particulièrement euphorisante.
Est-ce que, professeur, j'ai tort si... parce que moi, en vacances, je ne dors pas. Je trouve que quand on... La vacance, c'est vraiment lâcher tous ses soucis. Donc, par exemple, on déjeune, on s'en fiche. On déjeune à 3h de l'après-midi, pour le coup, c'est pas grave. Bon, donc moi, je n'ai plus besoin de dormir parce que je suis reposée. Je dors 2, 3 heures. Je ne dors pas.
Oui, mais c'est très bien.
Non, mais je vous demande pas de me donner une
note. Je ne sais pas ce que vous me demandez là-dessus, mais je vais essayer de vous répondre.
Le fait d'abandonner ses soucis fait qu'on est absolument plus fatigué et que le corps n'a plus besoin de dormir 8 heures.
Bonne question.
Oui, voilà. C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est bien... Là-dessus, il n'y a pas tellement de données. Ce qui est bien, c'est que du coup, vous profitez de la lumière du matin et que cette lumière-là, elle est très, très stimulante.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut bien évaluer ses besoins de sommeil. Et certains spécialistes disent, profitez des vacances pour voir à quelle heure vous dormez et vous vous réveillez naturellement. Et on peut évaluer ses besoins. Des fois, on pense qu'on doit dormir 7 heures et pas du tout.
Baptiste Beaulieu.
Pendant des années, vous savez, on a emmené les gens qui souffraient de tuberculose pulmonaire dans des sanatoriums qui étaient situés en bord de mer, à Berck par exemple. Et pendant des années, on a pensé que c'était l'air marin qui leur faisait du bien. On en est revenu aussi de ces données-là les dernières études montrent que c'est surtout le soleil et la vitamine D qui stimulent au niveau de la peau des petits peptides antimicrobiens qui s'appellent les catélicidines et qui luttaient plus efficacement contre la tuberculose que l'air en lui-même. Quoi.
Professeur Lejoyeux.
Et puis il y a un petit effet magique de la couleur bleue. Là aussi, on vient de s'apercevoir que les personnes âgées qui voient la mer régulièrement...
Ou un lac ou une rivière.
Ou qui sont à côté d'une rivière, avec quelquefois des petites complexités, parce qu'elles sont un peu isolées dans ces endroits-là, vont mieux, ont plus de fonctions cognitives, et ça fait pousser les neurones noués. Quand vous allez regarder la mer ou le ciel, vous augmentez un facteur qui est un facteur de croissance des neurones.
Alors Aline Perraudin, quels sont les bienfaits reconnus des bains de mer sur la santé ?
Alors, bah, on les a tous éprouvés. Déjà, ça nous rafraîchit, parce qu'on parlait de la canicule et des coups de chaleur.
Merci, ma bonne dame, j'avais pas remarqué.
Deuxièmement, c'est bon, surtout parce qu'on peut bouger et sans faire travailler nos articulations, grâce à la poussée d'Archimède, notre poids est divisé par 10, donc c'est quand même appréciable. C'est bon pour aussi les gens qui ont des problèmes circulatoires. Et puis, c'est très bon parce que ça délasse, c'est une relaxation musculaire et mentale. Et le professeur Le Joyeux l'a dit, quand on est dans l'eau, on est mieux. Et quand on regarde la mer, on est aussi mieux. Il y a une étude qui a été effectuée en Nouvelle-Zélande qui a montré que de regarder la mer vraiment permettait d'atténuer notre stress et apporter beaucoup d'apaisement.
Et si on n'a pas la chance d'aller à la mer, on peut se contenter d'une rivière ou d'un lac.
Alors, il y a quand même
du ciel.
N'oubliez pas qu'il est bleu.
Il y a quand même une composition particulière de l'eau de mer qui est très chargée en sels minéraux. Bon, on peut aller en mer morte encore là pour apprécier encore plus ces sels minéraux et le soleil qui est particulier.
Baptiste Beaulieu, quels sont les risques réels d'hydrocution en cas de forte chaleur? Ce sont des risques surévalués ou pas?
Alors, maintenant, il y a une vraie éducation qui a été faite. C'est vrai que les gens font plus attention, se jettent moins. Par exemple, on parlait des joggeurs tout à l'heure. Le jogger va faire plus attention avant de se jeter dans de l'eau froide. Le phénomène de l'hydrocution, il est assez simple à comprendre. C'est-à-dire qu'on a un corps qui est en surchauffe et qui se jette d'un seul coup dans un milieu très froid. Et ça va provoquer une vasoconstriction au niveau de la périphérie, une vasoconstriction réflexe. Donc, tout le sang va d'un seul coup revenir de la périphérie vers le cœur et donc générer au niveau des capteurs du cœur une sensation d'hypertension artérielle. Et donc le cœur va transmettre lui-même un message au cerveau en disant ralentis-moi. Et le problème, c'est que parfois le cerveau va le ralentir beaucoup trop. Et donc le risque, c'est le risque de la syncope et puis de l'arrêt cardiaque.
Mais Aïtana Birabin, un légume vert d'été qui fait du bien, c'est la courgette. Oui. Je crois que vous entretenez des relations très amicales avec la courgette que l'on retrouve sur les étals de mai à septembre.
Absolument, mon garçon. J'ai élevé mes enfants avec la courgette. Je les ai gavés de courgettes. Je crois que c'est le légume le plus facile, le plus... Je sais pas, Oui, j'ai un rapport instinctif à la courgette. Pardon,
Comment bien la choisir?
Alors, il faut qu'elle soit... Alors, attention à ça. Parce que une courgette, ça doit être lisse et un petit peu poilu. Vous avez les sensations du... Mais oui, il y a des tout petits pics sur la peau de la courgette. Je ne sais pas si vous l'avez jamais remarqué.
Thibaut de Saint-Maurice confirme.
Oui, je suis d'accord.
Ça picote un peu.
C'est un peu comme une pêche, un peu.
Exactement, mais moins doux. Et il ne faut pas qu'elle soit tachée, c'est très important. Parce que ça se gâte, ça peut se gâter vite, une courgette. Donc, belle, verte, ferme.
Et alors, deux recettes issues de votre livre ont retenu mon attention.
Oui.
D'abord, les tagliatelles de courgettes et les courgettes à la chermoula. D'abord, les tagliatelles de courgettes. Comment alors, on s'y prend?
C'est tout simple. Vous prenez un économe. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un économe, ça sert à éplucher les légumes. Et ensuite, moi, je pars du principe qu'on a acheté ces légumes si on le peut et c'est tant mieux bio. Comme ça, on les lave et c'est tout. Hop, on épluche pas. On garde la peau. Et donc là, vous allez, avec l'économe, vous râpez la courgette en long, comme si vous faisiez des longues tranches de courgette jusqu'aux graines. Ça, vous le gardez. Vous pouvez le mettre dans de l'eau, ou vous pouvez faire une purée. Enfin, voilà, bon, ou vous le jetez, vous faites comme vous voulez. Et à partir de là, vous faites revenir vos courgettes dans de l'huile un petit peu.
On cisèle les feuilles de basilic.
Avec du basilic, c'est extraordinaire, que vous pouvez rajouter après. Vous pouvez aussi les faire à la carbonara.
Gousse d'ail aussi.
Ouais. De toute façon, en général, avec les légumes, on peut mettre toutes les épices. Il faut faire attention de ne pas en mettre trop, c'est juste ça.
Et les courgettes à la chermoula?
Alors, j'adore l'idée de la chermoula.
J'adore le mot déjà, chermoula.
On est d'accord ou pas?
Ouais.
C'est quand même... Non, moi, la cuisine du Moyen-Orient, je l'adore. Donc ça existe. Maroc, Tunisie, Algérie, chacun a sa recette. Donc chacun sa chermoula, c'est comme d'habitude, chacun son couscous. Mais là, c'est avec du citron confit, de l'ail. Il y a toujours du cumin dans la chermoula.
Alors,
dans
je donne juste les ingrédients. Il faut 600 grammes de jeunes courgettes, un bouquet de persil, un bouquet de coriandre, un oignon, 3 gousses d'ail, un demi-citron confit, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de sel, du jus de citron et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors comment on s'y prend? Vous faites comment vous à la maison pour faire ces courgettes à la chermoula?
Comme vous, mon garçon. Vous avez essayé ou pas?
Mais je vais l'essayer pendant les vacances. Donc, on coupe l'oignon, l'ail et le citron confit en tout petit dé.
Et c'est ça, on mélange tout ça, on mixe tout ça. Ensuite, vous mettez vos courgettes que vous avez coupées, vous les laissez dedans un moment s'imprégner en marinade.
Voilà.
Et ensuite, vous allez faire cuire. Juste un truc, c'est que le ras el hanout Moi, je l'ai mis parce que j'aime beaucoup ça. Et en général, il n'y en a pas dans les charmoulas. Je sais que c'est... Ne m'écrivez pas, je le sais. Il n'y a pas de ras el hanout dans les charmoulas. Mais moi, j'aime le ras el hanout. Et je trouve que la cuisine, c'est toujours un truc qu'on doit prendre. Un bon bouquin cuisine, on le prend et surtout, on ne le suit pas. C'est pour ça, je veux bien vous répéter la recette, j'ai aucun problème. Mais en fait, je crois qu'on s'en fiche. Un bon bouquin de cuisine, c'est un truc qu'on ouvre, qui donne envie et qui nous fait dériver. Et qui nous fait faire ce qu'on a envie de faire, nous, comme on a envie de le faire.
Allez, n'hésitez pas à poser vos questions pour passer un bel été de bonne humeur, en bonne santé et en bonne forme au 01 45 24 7000. Cher, c'était quoi ça, Maïté Marin ?
I'll get you, babe.
Évidemment.
Yeah.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Comment passer à 10h42 un été en bonne forme, de bonne humeur et en bon état avec le professeur Michel Lejoyeux, avec la fan de courgettes Maïté Nabi-Rabin, le médecin généraliste et romancier Baptiste Beaulieu. D'ailleurs, on n'a pas, Baptiste Beaulieu, donné les qualités nutritionnelles de la courgette qu'on a évoquées il y a quelques secondes.
Alors, la courgette, c'est comme la tomate, le poivron, comme l'aubergine. C'est très riche en fibres et en eau, donc ça rassasie assez rapidement.
C'est peu calorique.
Voilà.
Oui, c'est vraiment...
Et puis ça, surtout, ça permet de lutter contre la constipation. Oui. Et puis, c'est surtout très riche en vitamine A, en vitamine C, en ce qu'on appelle les caroténoïdes qui permettent de protéger la vision, tout simplement,
yeux.
La peau, évidemment. Voilà.
Éline Perraudin.
Mais oui, c'est ça. Je voulais tout à fait dire ça. Mais je crois que c'est un des légumes les plus riches en eau.
Oui. Et professeur Lejoyeux.
Et un mot sur un tout petit mot sur un autre légume, puisqu'on a testé beaucoup les effets des légumes et on a vu effectivement des effets sur la bonne humeur. Une étude chez des étudiants américains, une centaine de milliers d'étudiants américains, il y a un légume qui ressort quand même très régulièrement comme beaucoup consommé chez ceux qui sont de bonne humeur, c'est le cornichon. Ouais. N'oubliez pas les cornichons. C'est pas, voilà, c'est si aussi, vous... c'est aussi un aliment, on appelle ça un psychobiotique, qui va peut-être faire fabriquer, qui probablement fait fabriquer par le tube digestif la sérotonine, qui est cette hormone de la bonne humeur dont on a besoin.
Donc on force sur le cornichon cet été.
Si on arrête de fumer, on mange des aubergines qui sont bourrées de nicotine. Mmh. Ah, qui, oui, c'est bourré de nicotine et donc ça aide.
Mais vous nous donnerez d'ailleurs tout à l'heure une petite recette à base d'aubergine. Alors, Baptiste Beaulieu, quand on découpe des légumes, on peut se faire des plaies, mais pas que. On peut se faire des plaies en marchant pieds nus à la plage. Et en cas de plaies, toujours vérifier les vaccinations. Quel est le principal risque en cas de plaies?
Le principal risque, évidemment, si la personne n'a pas été vaccinée ou qu'elle n'est pas à jour de ses vaccins, c'est le tétanos. Évidemment.
C'est quoi le tétanos ?
Le tétanos, c'est une maladie qui est liée à des... c'est une bactérie qui est dans des spores, dans le sol et particulièrement dans les sols très, très riches en terre. Voilà. Le risque, c'est que cette bactérie va sécréter une toxine qui va provoquer petit à petit une paralysie musculaire, notamment une paralysie musculaire de tous les muscles, y compris le diaphragme, donc une asphyxie et à terme le décès.
Alors de plus en plus de parents refusent de faire vacciner leurs enfants, notamment le DT polio. Alors, que dire aux parents qui refusent de vacciner leurs enfants, notamment à cause de la présence d'aluminium dans les vaccins? Je sens que certains vont vous accuser de rouler pour les labos pharmaceutiques.
Voilà. C'est chaud ce débat. Hein.
J'ai absolument aucune relation avec les laboratoires pharmaceutiques et je me mets à la place des parents. Ils ont raison de vouloir savoir qu'est-ce qu'on injecte dans les muscles de leurs enfants. L'OMS estime que chaque année, les vaccins sauvent 2 à 3 millions de vies dans le monde. Quand on sait qu'une maladie comme la variole tuait 400 000 personnes par an en Europe, on a grandi sans variole, on ne sait pas ce que c'est la variole. On est gâté de ce point de vue-là. Pour revenir sur la question de l'aluminium, c'est normal que les parents veulent savoir pourquoi on met de l'aluminium dans un vaccin. Ça paraît contre-intuitif, tout simplement parce que l'aluminium, actuellement, c'est le meilleur adjuvant qu'on ait. C'est-à-dire qu'il va stimuler la réaction immunitaire bien plus que si on mettait simplement le vaccin sans adjuvant. Ça veut dire que la réaction va être beaucoup plus immunisante et donc protéger beaucoup plus. L'aluminium, c'est le métal le plus présent sur Terre. Aucun vaccin, dans absolument aucun vaccin ne dépasse la concentration de 0,85 mg d'aluminium. Pourtant, on en mange tous les jours dans les légumes, les fruits, environ 4 à 5 mg. Donc les gens ont peur, alors que tous les jours, cet aluminium, ils l'ingèrent.
Donc on prend davantage de risques en ne faisant pas vacciner ses enfants du DT polio, qui risquent de se couper, et puis ça peut entraîner éventuellement le tétanos, qui peut avoir
bien sûr
des risques mortels.
Mais moi j'irai plus loin, parce que vous savez, là, actuellement on parle de rendre obligatoire, d'obligation sur les nouveaux
c'est
vaccins.
C'est le projet de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
19 vaccins.
Voilà. Il faut savoir que avant l'année 2007, par exemple, on comptait environ 50 cas de rougeole par an en France. Pour la seule année 2011, on en a eu plus de 15 000, par exemple, à cause de cette reculade face au vaccin. Et juste, je termine. C'est pas tellement la mortalité le problème, c'est parfois les séquelles. C'est-à-dire que la rougeole, on n'en meurt pas à chaque fois, mais on peut se retrouver avec des encéphalites très graves qui peuvent nous laisser des séquelles neurologiques terribles, comme la cécité. Donc il faut accepter après d'élever son enfant avec toutes ces séquelles-là. Il faut accepter
donc
ça.
Donc cet été, pour éviter les plaies, on se fait vacciner ou on fait un rappel du vaccin d'été polio pour éviter le tétanos. Alors l'été, Baptiste Beaulieu, nous serons nombreux à louer un appartement ou une maison par le biais de l'application Airbnb. Par exemple, en tant que médecin, vous constatez une augmentation de parasitose.
Ça va être la minute parano pour les gens qui nous écoutent
cet été.
Airbnb a fait beaucoup pour la gale. Je pense que le sarcope de la gale peut remercier Airbnb. Oui, effectivement, il y a des recrudescences de gale en Europe, particulièrement en France.
Expliquez-nous,
beaucoup de mes patients qui viennent pour la gale.
C'est dans les draps et dans les matelas.
Dans les draps et les matelas, évidemment.
Mais le drap, s'il est lavé, si on arrive dans son Airbnb et qu'on lave son drap, est-ce qu'on a moins de risques?
Évidemment, oui, on diminue le risque.
Largement le risque. Voilà.
Mais c'est sûr que Airbnb fait beaucoup pour le circuit d'épanouissement de la gale.
Bon, ouais. C'est inouï.
Ça va pas être gagné, la bonne humeur pour l'été. Là.
Et la Shintok, vieux, la petite hôtesse, elle est maquée?
Ouais, elle est avec moi.
Et sa copine, la frisée?
Elle est maquée aussi avec moi.
Ah bon? Bon, bah j'attaque l'infirmière.
Ah non, dis, elle est avec moi.
Ah bon? Excuse-moi, vieux, hein, autant pour moi.
Écoute, vieux.
Oui.
Il y a 500 GM ici.
500 ?
Ouais. Alors t'as le choix. Alors tu lâches le coup de Géo ? Hein ?
Oui, d'accord. Et il y a quel pourcentage de filles pour un mec ?
Ça dépend du mec, ça.
Ah oui, d'accord, oui.
Un extrait des Bronzés en 1978, ça fait du bien Maïté Nabi-Rabin. Allez-y,
non,
chantez un petit peu.
Non, mais là, je ne peux pas chanter, vous entendez ma voix de vieille dame un peu alcoolisée.
Alors, Baptiste, à boire avec modération, évidemment.
Ah, bien sûr, bien sûr.
Docteur Baptiste Beaulieu, l'été, c'est la saison de l'amour et des infections sexuellement transmissibles.
C'est pas possible. C'est quoi ce tropisme noir de l'été? Qu'est-ce qui vous arrive, Ali? Alors, attendez, allongez-vous. Qu'est-ce qui se passe?
Ali, vous avez peur d'arrêter cette émission. La semaine prochaine, vous serez à France Inter.
Mesdames et messieurs, l'été, c'est bien, c'est chouette.
Non, mais Baptiste Beaulieu.
Travail et surtout Baptiste Beaulieu.
Baptiste Beaulieu, tout de même, on constate une recrudescence de l'hépatite A en région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'été.
Oui, alors l'hépatite A, ça s'attrape essentiellement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Après, ça s'attrape aussi d'un autre côté avec les nourritures mal lavées, les eaux un peu souillées. Mais oui, il y a des recrudescences en ce moment en région PACA. Donc, il faut faire attention. On en guérit spontanément, mais c'est vrai que ça peut parfois dégénérer.
Et puis, il faut faire attention aux IST de façon très générale.
De façon générale, oui, se protéger.
Voilà, l'été, c'est le temps des rencontres,
exactement.
Évidemment, et on ne se protège pas toujours.
Et ne jamais oublier qu'en cas d'exposition, on peut aller à l'hôpital, aux urgences, pour demander un traitement post-exposition. Voilà.
Michel Lejoyeux, un bon équilibre psychique, ça passe aussi par un couple qui s'entend bien, et les vacances d'été sont souvent un moment de vérité pour les couples. Toujours dans cette veine positive.
Donc, on a eu l'hépatite.
On a manqué le divorce.
Maintenant, le divorce. Ne vous inquiétez pas, septembre n'est pas loin, si vous voulez.
Excusez-moi, je me base sur votre livre, Michel Lejoyeux.
Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y avait les quatre saisons. On a aussi trois autres saisons pour
se aller mal.
Pour se remettre.
Là encore, je crois que le danger serait d'imaginer que le couple va être complètement différent l'été. Vous voyez cette idée que les relations qu'on a, sous prétexte qu'on a moins de pression et moins de travail vont complètement changer, et que du coup notre niveau d'exigence relationnelle, affective, sexuelle va devoir être multiplié, et là pour le coup on est dans quelque chose de l'ordre de la pression. Mais rappelons-nous quand même que dans l'essentiel des cas, ça se passe bien l'été. Moi je le vois en consultation, je le vois. Je veux dire, ce n'est pas une maladie grave, c'est vraiment un moment. Vous savez, on a notre cerveau, on a nos deux hémisphères. Là vous avez beaucoup sollicité notre hémisphère majeur, l'hémisphère très sérieux qui réfléchit. On a aussi, et c'est comme ça qu'on va résister et tenir jusqu'en septembre, on a aussi un hémisphère mineur, celui qui est faussement mineur, qui est celui justement de l'émotion, de la sensibilité, de l'art. Un été où on va pouvoir utiliser tout ça, on va pouvoir équilibrer un tout petit peu nos deux hémisphères. Bien sûr qu'on va prendre les précautions, on va éviter l'hydrocution, la gale, les IST. Mais en même temps, on va avoir ces moments d'émotion qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir.
Entre deux trucs.
Maïté Nabi-Rabin, alors je ne sais pas si l'aubergine a des vertus aphrodisiaques, mais elle a au moins des vertus gustatives. Oh, c'est des légumes de l'été.
Oui.
Quelques conseils pour bien le choisir?
L'aubergine, c'est toujours la même chose, brillante, lisse, alors il n'y a pas de truc avec la queue comme pour le melon, on s'en fiche. Après, c'est une histoire de goût. Moi, je les aime mieux plutôt petites. Bon, d'accord. Okay,
mais
je me suis couchée très tard et j'ai fait la fête parce que j'étais à Solidaise. Mais vous n'avez aucune excuse, Ali, à ricaner bêtement.
Alors, je ricane pas.
J'aime bien choisir les petites aubergines plutôt que les grandes.
Deux recettes bonnes et saines, peut-être.
Alors, bon. La salade d'aubergine, je sais que vous avez bien aimé, que vous pouvez faire avec de la feta, entre autres, mais vous prenez de la feta, du fromage de
brie. On fait griller les aubergines.
Alors, on prend des aubergines et des tomates cerises. Les tomates cerises, on les coupe en deux, on les fait revenir dans une poêle. Toujours, moi, je travaille avec de l'huile d'olive, donc vous faites comme vous voulez, vous pouvez les mettre au four aussi, c'est la même chose. Ensuite, vous mettez du sucre sur vos tomates, ça va donner un petit goût. Alors moi, j'utilise du sucre glace, mais peut-être que je devrais pas, mais je sais pas s'il faut.
Ou du miel, c'est bien aussi.
Je suis pas très sucre, d'accord. C'est pour ça que je fais ça. Et puis ensuite, vous mettez votre aubergine que vous avez coupée en rondelles. C'est pour ça que j'aime bien quand elles sont plutôt positives. Sinon, ça fait. Vous avez des tranches énormes et des tranches toutes petites. Je n'ose plus parler, c'est vrai. Et que vous faites revenir. Vous mettez tout ça sur un lit de roquette et vous rajoutez la feta.
Et
vous
avez. Caviar d'aubergine.
Alors, je le fais au capre. Ça, c'est le truc le plus, honnêtement, c'est épatant, parce que tout le monde va vous dire, mais j'adore, tu m'as fait ton cœur. Imagine le truc le plus simple du monde. Je parle sous votre, vous qui cuisinez énormément.
Thibaut de Saint-Maurice.
Hein, c'est
oui,
d'accord.
C'est vrai que c'est pas très compliqué, mais en revanche, c'est tout est dans l'assaisonnement, enfin, le fait de le relever un petit peu.
Vous coupez vos aubergines en deux, vous mettez au four, vous laissez la peau brûler, vous récupérez la chair, vous allez ensuite mixer avec de
l'ail. Huile d'olive.
Évidemment, huile d'olive, un petit peu de tomate, et puis à la fin, moi, je rajoute les capres, et c'est extraordinaire.
Alors, Michel Lejoyeux, pourquoi les estivants qui préfèrent manger des hamburgers frites et des sodas plutôt que du caviar d'aubergine sont plus souvent de mauvaise humeur?
Ah oui, ils sont de mauvaise humeur.
Pourquoi?
Et puis, alors, on a vu ça, c'était pas exactement des estivants, c'était aussi des adolescents américains nourris exclusivement, vous savez, l'adolescent nourri exclusivement au hamburger frites, avec y compris des dommages sur le cerveau, un risque de dépression, avec une chose assez simple, à savoir que quand on mange des sucres d'absorption très rapide, très différents de ceux qu'il y a dans les légumes, on a un pic d'augmentation, donc d'hyperglycémie, qui stimule l'insuline, et on va avoir après des hypoglycémies. Donc paradoxalement, plus on mange de sucre, plus on en a besoin, et plus on va se sentir potentiellement mal et de bonne humeur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre une glace de temps en temps ou des choses
sucrées. Il ne faut pas abuser des chouchous et des beignets sur
mais
la plage.
Mais surtout pas exclusivement nourri d'aliments gras et sucrés.
Bonjour Erwan Montéour.
Bonjour Ali.
Comment ça va?
Bah écoutez, je regrette de pas être avec vous parce qu'il y a une telle ambiance aujourd'hui.
C'est clair,
c'est pas tous les jours comme ça, c'est pas tous les jours comme ça l'émission, puis surtout c'est des sujets qui me tiennent tellement à cœur, vos suggestions me font plaisir.
Alors vous êtes coach sportif, préparateur physique et vous avez publié chez Solar la méthode Fitnext. L'été c'est le moment idéal pour se remettre en forme, notamment quand on n'a pas le temps de faire du sport le reste de l'année. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on veut se remettre à une activité physique ou sportive pendant l'été?
Déjà, la première des choses qu'il faut dire, c'est que les gens ont beaucoup de mal à entreprendre cette démarche, c'est-à-dire à ritualiser dans leur quotidien, mettre un modus vivendi où ils intègrent le sport de la même manière qu'ils se brossent les dents ou qu'ils se prennent une douche le matin. Ça devrait être naturel de faire du sport. Donc là, les erreurs à ne pas commettre, c'est ne pas aller trop vite, c'est-à-dire on va faire du reconditionnement si on est sédentaire, on va se mettre à avoir une petite activité cardiovasculaire en endurance fondamentale. Endurance fondamentale, c'est l'équilibre d'oxygène. Vous êtes capable d'entretenir une conversation avec votre voisin lorsque vous vous mettez à trottiner.
Ou à marcher vite aussi. Marcher vite aussi, c'est bon.
Marcher vite. Et on court 5 minutes, on marche rapidement. On court 5 minutes, on marche rapidement. Ça, c'est la première des choses. Si on arrive à faire 35-40 minutes comme ça, ce que les grands publics appellent le second souffle est en réalité l'augmentation du volume plasmatique dans le sang. Et en fait, l'augmentation du volume plasmatique permet de stimuler les fonctions d'élimination du corps. Vous avez 5 usines de traitement des déchets dans le corps, peau, poumon, foie, rein, intestin. Et en quelque sorte, lorsque vous faites plus de 45 minutes, vous allez sortir les poubelles. Vous allez vous débarrasser de pas mal d'exotoxiques qui sont dans ces usines, qui se logent dans ces usines de traitement des déchets. En plus, quand vous êtes en équilibre d'oxygène comme ça, vous sollicitez une filière énergétique qui s'appelle la lipolyse, c'est-à-dire que vous utilisez les graisses pour assurer vos fonctions vitales et cognitives. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les graisses, et monsieur le professeur Joyeux va vous en parler, c'est que souvent les exotoxiques se logent dans les graisses. Donc lorsque vous faites ça, non seulement vous sortez les poubelles, vous consommez des graisses, mais vous vous débarrassez d'un maximum d'exotoxiques qui peuvent avoir des conséquences néfastes d'un point de vue organique et métabolique sur votre corps.
Professeur Michel Lejoyeux.
Oui, d'un mot. En plus, quand vous marchez pendant 6 minutes, rapidement, vous augmentez de 30% votre niveau de bonne humeur et vous augmentez toutes les molécules de la bonne humeur. Donc, ouais, pas l'exercice qui va nous épuiser. 30% d'augmentation cardiaque, du rythme cardiaque suffit pour être de bonne humeur.
Et remontez-vous, on a encore quelques secondes. Vous préconisez aussi l'été, pourquoi pas, de se mettre au yoga, à peut-être s'y mettre
Alors, de toute façon, il faut bien comprendre une chose. Juste une petite précision.
Vous avez 10 secondes.
L'état de forme physique, c'est 70% l'alimentation, 30% le sport. Ça, il faut le savoir.
Moi, j'ai toujours dit ça.
La base, c'est l'alimentation, même pour les athlètes de haut niveau.
Voilà.
Évidemment, la forme, c'est physique, c'est physiologique, c'est le matériel que vous allez donner, c'est-à-dire donner à votre corps, d'un point de vue alimentaire, ce dont il a besoin pour se réparer, pour tout le matériel immunitaire. Et d'autre part, le yoga, c'est un truc hyper important parce que la forme, c'est aussi tout ce qui est psychologique. Et le yoga et la méditation sont des outils extraordinaires pour permettre au corps d'aligner le corps et l'esprit.
Merci beaucoup, Erwan.
C'est essentiel.
Merci beaucoup, Erwan Montéour. Merci beaucoup, Maïté Nabirabin. Légumes, ils vont vous surprendre avec le chef Pierre Etchemaïté, c'est chez Marabout. Merci, Michel Lejoyeux. Les 4 saisons de la bonne humeur, c'est chez Jean-Pierre Dattel.
jeunesse. Baptiste Beaulieu, je recommande très vivement votre blog médical. Alors voilà, à la technique ce matin, Maxime Ingrand et Mehdi Fatah. Demain, on s'intéresse à tous ceux qui prennent leur retraite entre soulagement, joie et peur du vide. Nous recevrons le sociologue Serge Guérin et le journaliste Quentin Périnel. Racontez-nous comment s'est passée votre retraite et si vous devez la prendre bientôt, racontez-nous vos appréhensions, vos espoirs d'une nouvelle vie. Grand bien vous fasse, à radiofrance.com.